identifier, courir, étendre. Ce soir, l'atelier de création radiophonique propose une émission à double entrée. Une face A, tout d'abord, avec « Autour du parc », un essai radiophonique de Julie Desprairies. En face B, un nouveau portrait de notre série « S'entretenir ». Julie Desprairies travaille depuis 10 ans sur des projets chorégraphiques conçus pour des architectes. Chaque fois, elle mène une même investigation fouillée des lieux. Lecture, entretien, consultation d'archives, visite. La collecte de tous ces éléments nourrit son projet de danse. Actuellement, elle prépare un environnement chorégraphique pour la Villeneuve de Grenoble, quartier construit entre 1968 et 1978, et témoin exemplaire des idées urbaines novatrices de cette époque enthousiaste où on voulait changer la ville pour changer la vie. Pour l'atelier de création radiophonique, Julie Desprairies documente cette phase préparatoire et nous donne à entendre les secrets de l'élaboration d'un projet chorégraphique pour un ensemble urbain.
La création.
Atelier de création radiophonique. Five. Autour du parc.
Four.
Three. Un essai radiophonique de Julie Desprairies.
One.
Il s'appelle comment ce projet ? Autour du parc. Oh, mais c'est bien, c'est rayonnant.
Je marche dans le parc de la Villeneuve, il fait nuit, des femmes m'ont dit, à qui je demandais mon chemin, m'ont dit « passez par là si vous n'avez pas peur ». C'est un assez joli parc, l'ensemble des habitations qui m'entourent est éclairé et ça donne un côté assez joyeux. C'est très calme, là je m'approche de la rue mais... l'intérieur du parc, c'est très calme. C'est vraiment intéressant cette galerie qui parcourt l'ensemble des bâtiments un petit peu en hauteur, comme une rue couverte. D'ailleurs là, menace de pleuvoir, je suis bien contente d'être à l'abri. Je commence à me familiariser un peu avec les lieux, ce qui est jamais désagréable quand on commence à reconnaître des endroits. On se sent presque chez soi. Je suis dans la galerie de l'Arlequin, donc toujours dans cette rue couverte qui parcourt l'ensemble des bâtiments, un petit peu en hauteur, pas au niveau de la rue. Belle couleur, ça a été repeint récemment.
C'est à l'histoire d'une véritable légende urbaine que nous vous convions ce soir pour la deuxième émission du Pays d'ici, consacrée à la Villeneuve de Grenoble. Quelques dates d'abord. 1960, Grenoble n'en finit plus de grossir, deux fois plus vite que les autres agglomérations françaises de même envergure. La ville décide alors de réfléchir à la création d'une ZUP de 9000 logements. 1965, Hubert Dubedoux est élu maire de Grenoble. On ne parle plus de ZUP, mais de modèle urbain novateur. Aujourd'hui, ce modèle existe, c'est la Villeneuve. Conçue et réalisée entre 1968 et 1978. La Villeneuve est composée de deux quartiers, l'Arlequin et les Baladins. Jean-François Parent, vous êtes avec nous ce soir pour revivre l'aventure de la Villeneuve. Vous en êtes un des pères fondateurs, vous êtes en tout cas urbaniste. Et vous étiez arrivé à Grenoble, je crois, en 1966 par un train qui vous amenait. Ce soir, pas besoin de train puisque vous habitez la Villeneuve.
Moi, j'ai la chance de pouvoir me confronter tous les jours à toutes les erreurs que j'ai faites.
Là, vous arrivez sur le parc avec la piscine. Mmh. Vous pouvez y arriver par plusieurs endroits, mais vous pouvez aussi y arriver par là. Mmh. On nous a beaucoup reproché ce truc un peu compliqué où les gens se perdent. Ben pour nous, c'est presque une qualité que de se perdre. Je veux dire que il n'y a pas d'uniformité, il n'y a pas. C'est pas plat, on peut varier, on peut changer son itinéraire suivant les saisons. Bonjour. Quand il fait beau, on se balade dans le parc. Quand il pleut ou qu'il neige, on est dans la galerie. Ah, on va les voir, on va les voir.
À Paris, dans l'atelier de Juliette Barbier, plasticienne.
Il y a une chose qui me plairait bien, c'est d'utiliser la notion de promenade architecturale, tu sais, développée par Le Corbusier dans certains de ses écrits par rapport à certaines villas qu'il a construites dans les années 20-30, où il dit que l'usager doit avoir une espèce d'évidence de promenade dans son bâtiment avec différents points de vue, différentes ouvertures. Et là, puisque justement on n'est pas dans l'échelle architecturale mais urbaine, il faudrait qu'on développe cette idée-là à l'échelle de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'en fait, cette rue-galerie, elle permet ça. Elle permet une promenade où tu as des ouvertures sur la montagne grenobloise, après tu as une ouverture sur un gymnase, avec des gens qui sont en train de éventuellement se baigner si c'est une piscine ou faire de la gym. Après, tu vois des habitations, puis une école, puis une porte d'entrée, enfin, un hall d'entrée. Donc, l'idée de la promenade... Mais dans un sens un peu fort, un peu plein, il faut qu'on la prenne à notre compte. J'avais imaginé, par exemple, qu'il pourrait y avoir plusieurs groupes de spectateurs qui font plusieurs trajets et qui, en fait, ne vivent pas les mêmes émotions ni les mêmes événements. Et après, il faut un moment où ils puissent avoir accès à ce qu'ont vécu les autres.
Les échelles, lointaines, les échelles plus rapprochées.
Alors ça, c'est une idée de Corajou, ça, pour le parc.
Jean-François Parent.
L'idée des buts dans le parc.
Urbaniste de la Villeneuve.
Qui a été assez critiquée. Vous faites des buts, à quoi elles servent? Elles servent, premièrement, à y mettre tous les déblais, ce qui coûte moins cher que de les envoyer. Mais deuxièmement, elles servent surtout à différencier les plans. On a le premier plan avec les arbres. On a le deuxième plan avec... les buts, le troisième avec les immeubles d'en face, et en fin de compte, le dernier avec les chaînes de montagne. Donc ces buts ont un rôle aussi de mettre du relief dans les perspectives.
Alors, peut-être je vais me présenter rapidement.
Oui.
Donc, Julie Desprairies, je suis chorégraphe et je m'apprête à écrire un projet pour la Villeneuve. Je travaille depuis maintenant plusieurs années sur des spectacles, des projets chorégraphiques qui s'inscrivent dans des bâtiments ou des ensembles urbains. Et donc, je m'appuie sur les spécificités de ces lieux. Et je m'intéresse à la Villeneuve depuis un petit moment. J'avais envie de faire quelque chose ici et France Culture m'a proposé de faire ce qu'on appelle un atelier de création radiophonique. On peut entendre le bruit de ta cuillère, hein, ça ne me gêne pas. Je leur ai proposé de suivre cette phase qui d'habitude n'est pas documentée à part dans mes cahiers et dans ma tête, de rencontre avec le lieu, de rencontre avec ses habitants, ses usagers, les personnes qui ont fabriqué le lieu, qui me sert en fait ensuite comme matière pour écrire mon projet.
D'accord. Et donc j'enregistre finalement ce que je ferais normalement de manière tout à fait privée, c'est-à-dire d'aller solliciter des gens dont le témoignage m'intéresse pour ensuite réfléchir à aujourd'hui quel type de projet monter ici. Mais pour ça, j'ai vraiment besoin de me nourrir de tout ce qui a été fait, tout ce qui a existé dans les lieux. Et en particulier à la Villeneuve, c'est très fort, puisque comme c'est un lieu qui a vraiment été porté par des idées, j'ai vraiment besoin de reconvoquer ces idées, enfin de m'en imprégner pour non pas les remettre en œuvre, mais en tout cas savoir dans quoi j'arrive et dans quoi je m'inscris.
C'est un parc qui frappe aujourd'hui par son modelé, par son caractère très artificiel et très sculptural, plutôt que naturaliste.
Michel Corajou, paysagiste de la Villeneuve, au micro de François Chalin.
Oui, à cette époque-là, j'étais très en rupture avec mes confrères paysagistes qui introduisaient d'une manière que je trouvais un peu trop artificielle la nature dans la ville. Et moi, je voulais tout au contraire que les parcs, et du moins le seuil de l'architecture, soit plutôt le lieu de l'apprentissage de l'architecture, de la rationalité de l'architecture. Et c'est pour ça que je me suis servi beaucoup de la campagne comme modèle, on pourrait dire, comme éthique, parce que la campagne est pré-architecturale, non ? Le dessin des champs, le dessin de l'organisation du territoire par les paysans introduit assez bien l'idée de l'architecture. Au fond, les paysans sont les premiers architectes. L'idée de la nature m'intéresse moins que l'idée justement de cette rationalité que le paysan met en travaillant le sol, le territoire, et dans ses échappées, dans ses ruptures, dans ses difficultés de discipliner un sol souvent un peu impétueux, dans ce travail-là de mise en ordre, au fond, il y a toute la beauté du monde, quoi.
En même temps, on sait que vous avez, et vous, toujours maintenant, vous réfléchissez beaucoup aux horizons, c'est une chose qui vous préoccupe beaucoup, que l'horizon soit maintenu, mais la campagne que vous introduisiez dans ce l'illusion, où la géographie que vous introduisiez dans ce grand ensemble était modelée sur c'était des grandes buttes un peu ovales qui se succédaient, des sortes de grandes masses très abstraites quand même.
Oui, oui. Très, très dessinées.
Très dessinées. Hein.
C'était cette idée-là justement que le parc devait être, comment est-ce qu'on pourrait dire, celui qui introduit à l'architecture, au lieu d'être son démenti. Et j'aimais l'architecture, vous le savez, j'ai participé à la UA très longtemps, et la ville, j'aimais l'architecture. Et j'ai fait ce métier de paysagiste pour un jour penser pouvoir faire bien un jour de l'architecture. Et donc les parcs que je faisais à cette époque-là étaient des sortes d'antichambres de l'architecture. Et donc ils en avaient déjà la rationalité. Je pensais que rétablir le goût pour la chose maîtrisée, pour la composition, pour le dessin, pour la géométrie, on pourrait dire, était peut-être assez nécessaire. Et cela d'autant que cette géométrie, elle était faite de végétal. Et qu'elle était douce, au fond. C'était une géométrie douce et pas dure.
Un peu plus près. Non, Julie,
plus près.
Première répétition.
Élise, attends, pas toutes les deux, bougez pas toutes les deux à la fois. J'indique à qui, à Élise ou à Julie.
Vladimir Léon. D'accord. Photographie Élise Ladoué, danseuse dans le parc de la Villeneuve.
Alors Élise, t'es bien. Tu peux reculer d'un pas. Ok, top. Impectillé. Alors, attends. Non, viens diriger un peu.
Je cours pour me réchauffer.
Parce que là, c'est assez joli, et la crête et le dôme et tout, mais il faut savoir ce qu'elle fait, parce que il vaut mieux comment elle marche, comment elle est-ce qu'elle monte, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse?
Je veux qu'elle court, comme je faisais.
Qu'elle court?
Ouais.
D'accord. Alors, et elle sent la capuche, j'imagine.
Enlève ta capuche.
Tu veux qu'elle court?
Cours!
Vas-y, fais-la courir.
Vas-y!
Peut-être pas qu'elle nous regarde, juste qu'elle leur fasse à nous regarder.
Alors attends, je vais lui dire.
Ouais. Tu peux le refaire!
Mais pourquoi tu lui fais faire si petite? Faut pas qu'elle parte du bas?
Ah non, parce que je suis très serré, en fait, j'ai la montagne, le dos, mais non, pas le bas, je vais lui faire le bord cadre, attends.
D'accord. attraction, non?
Formidable.
On va garder ça pour le spectacle. T'imagines 10 personnes, ou 20 personnes, ou 30 personnes, tout le monde sur ça.
Bon, par exemple, tu vois la photo sur la butte
oui.
où tu la vois comme ça.
Ouais. Bon.
Pour te donner un exemple d'action très simple et quasiment graphique qui pourrait avoir lieu, si tu concernes,
chez Juliette Barbier,
trois groupes, alors ça peut être des écoliers ou n'importe, et qu'ils embrassent toute cette rondeur-là, et que tous y grimpent, tu vois, ça peut être une action hyper courte en fait. Tu peux commander, par rapport à ce que j'ai fait d'habitude, où tout le monde était impliqué dans tout, etc., tu peux commander des choses, tu peux commander une action sur une butte par un groupe.
Si jeune et inutile, je me promène dans la ville, je ne sers à rien, je ne produis rien. Si jeune et inutile, je te prends par la main. Nous nous promenons en ville et nous ne faisons rien.
Pour la première fois de notre vie,
Georges Loiseau,
nous avons entendu un client nous dire, messieurs, soyez imaginatifs,
architecte de la ville neuve,
faites table rase de tout ce que vous savez et concoctez-nous un projet nouveau, un modèle urbain nouveau. Qui soit autre chose que ce qu'on connaît actuellement. Ça tombait pile, évidemment, dans nos préoccupations, puisque nous étions, très agacés par le principe des grands ensembles. Donc, soucieux que nous étions d'essayer de comprendre les problèmes complexes de la ville, nous avons été heureux de pouvoir saisir l'occasion d'un essai de résolution globale des problèmes urbains.
Et le temps peut passer, et la ville peut s'arrêter. Et le temps peut passer, et la ville peut s'arrêter.
Et donc notre équipe d'urbanistes a pris le chemin de Grenoble pour fonder l'un des premiers ateliers d'urbanisme municipaux, qui était l'AUAG, l'atelier d'urbanisme et d'architecture de Grenoble, et pour essayer, avec les décideurs politiques, d'établir un premier programme. Comme souvent à l'AUA, les idées des uns et des autres se sont en quelque sorte entremêlées. Nous n'avions pas de présupposés morphologiques en tête. Nous n'avons pas pensé, nous, créer d'emblée des objets qui auraient telle ou telle forme. Autant nous sentons les auteurs du schéma du modèle urbain, autant nous ne revendiquons en aucune façon les architectures qui en ont découlé. Encore qu'avec certains programmes, nous sommes plus d'accord qu'avec d'autres. L'idée de l'Arlequin, vous le savez, c'est un quartier sinueux, qui évite l'angle droit des fameux grands ensembles, trop systématique. Donc un quartier sinueux avec un cheminement piétonnier principal le long duquel tous les équipements s'échelonnent et se greffent.
Il n'y a pas d'unité dans les architectures et pour cause, parce que c'est plein d'architectes. En fait,
séance de travail dans la galerie de l'Arlequin.
Les architectes qui ont conçu la Villeneuve, c'est-à-dire entre autres celui qu'on a interviewé, là, Jean-François Parent, ils ont conçu le plan masse, c'est-à-dire ils ont conçu la disposition, le programme, la façon dont les choses allaient être agencées, les unes par rapport aux autres, le parti d'agencement en fait, et le parti d'aménagement. Mais ils n'ont pas dessiné les bâtiments. En fait, chaque bâtiment a été dessiné par ce qu'ils appellent des architectes d'opération, c'est-à-dire des architectes qui étaient missionnés par les promoteurs. Donc soit des promoteurs privés, il y en a peu, soit des promoteurs publics pour tout ce qui est équipement, école, centre de santé, etc. C'était des promoteurs publics qui avaient leurs architectes. L'office de HLM avait ses architectes, mais c'était les architectes d'opération qui proposaient des formes et les architectes en charge du projet, c'est-à-dire Georges Loiseau, Jean Tribel,
Jean-François Parent, enfin, qui donnaient leurs orientations, qui disaient par exemple il faut que cette rue galerie qui circule sous tout le quartier soit respectée, des grandes orientations. Donc c'est vrai que du coup ça oriente un peu aussi le projet, enfin, ça oriente même la séance de travail aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que c'est pertinent du coup de s'attacher à des détails architecturaux? Oui et non, c'est-à-dire oui dans une certaine mesure, puisque tout ce qui est design urbain, ça c'est signé, et c'est assez facile pour nous de le reconnaître maintenant, c'est Henri Siriani et Borja Huidobro. Donc Siriani et Huidobro, eux, ils étaient vraiment chargés de tout le dessin du mobilier, ce qu'on pourrait appeler le mobilier urbain, enfin justement cette galerie, les éléments... pour s'asseoir, je vous montrerai, il y a vraiment des choses qu'on retrouve comme des espèces de signaux, et ça, on peut vraiment les repérer comme étant la signature de Siriani, des espaces finalement communs et collectifs. Donc ça, je pense qu'on va l'utiliser, parce qu'il faut justement qu'on s'y confronte avec le corps pour voir comment le corps réagit à ces éléments-là, comment il s'y mesure, bon. Par contre, ce qu'on sent, c'est que si projet chorégraphique il y a ici, tout le projet doit vraiment s'appuyer sur les idées qui ont guidé le programme, puisque c'est ça le plus important. Tout ce qu'on a finalement recueilli de vraiment singulier et particulier à ce quartier, c'est une façon d'habiter, une façon de vivre ici. Et une façon de concevoir les rapports collectifs et communs, enfin le fait de vivre ensemble, quoi. C'est vraiment une expression qui revient tout le temps. Comment inventer une nouvelle façon de vivre ensemble. Donc il faudra s'inspirer ou s'appuyer là-dessus principalement. Bon, néanmoins, il y a quand même des endroits que j'ai envie d'explorer avec vous, avec toi Élise en particulier, avec le corps, et donc avec toi Vladimir sur le type de point de vue et de cadrage qu'on peut donner à ces expérimentations physiques. Et en particulier ces piliers de béton là qu'on va aller voir, qui ont été repeints dans les couleurs, si ce n'est d'origine, en tout cas le type de couleurs qui étaient choisies à l'origine par Siriani, c'est-à-dire des couleurs très vives, primaires. Donc vous l'avez vu sur les dessins et sur les photos d'origine que j'ai pu vous montrer ici ou là, c'est vraiment un travail extrêmement graphique, avec les chiffres des immeubles qui sont indiqués, des chiffres portes d'entrée qui sont indiqués de manière très visible, en gros caractères, à même le béton. Enfin bon, donc ça, je voulais vous montrer ça. Et puis il y a deux, trois autres spécificités vraiment liées au quartier et qui aussi induisent des pratiques du type des halls d'entrée surélevés qui sont considérés comme espaces collectifs dans lesquels il pouvait même se passer des rencontres, des événements et tout ça. Donc là, j'aimerais bien qu'on y aille. Là, on est en face du marché. Ça aussi, c'est un endroit très important à la Villeneuve, puisque tous les matins, il y a un marché, ce qui est quand même assez rare pour un quartier de ce type. Et ce que je voulais vous proposer, et c'est un peu ça ce qu'on va faire aujourd'hui, Élise. Là, si on peut prendre par exemple 2-3 photos d'Élise au marché.
D'accord.
Élise Ladoué, photographiée par Vladimir Léon.
Ah, mais tu veux dire que sur la fiche du bâtiment ?
Ah oui, complètement. C'est l'usage.
Si tu veux une spéciale légumes, on va t'en faire.
Là, c'est l'usage qui m'intéresse.
Retourne plutôt vers le chou-fleur maintenant, s'il te plaît.
Panier vert ou panier rouge ?
Rouge, ça va avec le manteau, c'est pas mal. Ah, d'accord.
Attends, mais j'ai pas besoin d'architecture là.
Plutôt chou-fleur carotte. Brocoli, oui.
Là, c'est les usages qui m'intéressent. Tu fais tes courses, hein, Élise ? Ouais.
Le dos plein, est-ce que tu vas pas être dans un trois quarts d'eau ? Ça
ouais,
serait quand même
voilà,
un peu plus
voilà.
Joli.
Tourne-toi un petit peu vers nous.
C'est quoi là que tu as ? Ah, c'est l'artichaut, très bien.
Bon, ça va ? Enfin, plus ça va, plus je me dis, finalement, il nous faut une sorte de figure récurrente, comme un personnage, mais j'emploie délibérément le mot figure parce que j'ai l'intention de peut-être associer à ce projet Cécile Paris, qui est donc vidéaste, et qui travaille souvent sur des formes vidéo assez courtes, en plan séquence, où elle suit un personnage, mais qu'elle elle appelle plutôt figure, comme une espèce de silhouette comme ça, faisant une action très simple dans des espaces. Bon. Donc aujourd'hui, je voudrais que tu tiennes ce rôle, c'est-à-dire que je voudrais que tu sois une silhouette qu'on va suivre à travers des aventures qui t'arrivent dans cette Villeneuve. Donc on peut même imaginer que tu la prennes en photo dans des actions qui ne sont pas des actions
danser au sens vraiment acrobatique ou que sais-je, accroché à des murs ou à des ou s'inscrivant dans des parois ou je sais pas quoi, mais tout simplement Élise au marché, Élise au patio, Élise Élise dans des activités diverses qu'on trouve ici à la Villeneuve.
Donc, je m'appelle Jean-François Parent.
8 allées de la colline, au Baladin.
Je suis venu à Grenoble en 1966. J'étais urbaniste à Paris, dans le cadre d'une coopérative, la UA. Et je suis venu en début 66 pour créer l'agence d'urbanisme de Grenoble et en même temps étudier les projets de la municipalité du Bdou.
Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est la question de la paternité, c'est-à-dire que je sens qu'il y a donc toute cette...
Alors, très simple, c'est une paternité multiple. Il n'y a pas un auteur qui a fait un dessin et qui l'a fait exécuter aux autres. C'est une équipe pluridisciplinaire. Mais vraiment, c'est... une paternité multiple. Et je dirais doublement parce que d'autre côté, il y avait l'équipe des élus. Et là, on a eu vraiment aussi un travail d'équipe avec les élus. On se voyait toutes les semaines et on sentait ce qu'ils souhaitaient, on leur proposait des choses, ça allait pas, etc. Donc vraiment un travail d'équipe. Je dois dire que c'est vraiment ça la caractéristique.
Alors c'est vrai qu'avec Dubadou, il était très intéressant de travailler. Parce que c'était un homme qui écoutait ce qu'on disait, qui tenait compte.
Georges Boulou, conseiller municipal à Grenoble entre 1965 et 1983.
Il y avait quand même une relation très privilégiée à cette époque entre les élus et à la fois les habitants, les architectes, enfin les gens qui faisaient...
Oui. C'est devenu des copains. En plus, je vous assure, on avait des commissions travaux pour la Villeneuve, pour accepter les propositions des techniciens, des architectes, des dessinateurs. On embauchait des gars, un dessinateur en bâtiment. 15 jours ou 3 semaines après, il parlait au nom du service pour expliquer aux élus ce qu'il avait l'intention de nous proposer, quoi, ses propositions. Le type était transformé. Il n'y avait plus d'horaire. Vous voyez, avant, c'était des heures... Mais là, on finissait à 22h le soir. Mais il restait jusqu'à 22h avec nous, hein. Vraiment, les gens étaient transformés par la même manière de travailler. Ils étaient impliqués dans leur travail. À la fois, dialoguer avec les habitants et avec les élus, quoi. Ah oui, ça a été une expérience merveilleuse. Non, puis tout le départ de la Villeneuve, c'est comme le départ du village olympique. Il y avait quand même beaucoup de militants, quoi. Que ce soit chez les parents d'élèves, les associations de locataires, les unions de quartier. Et ça, c'est une richesse incroyable.
Georges Loiseau.
La Villeneuve n'est en rien, à mon avis, une utopie. C'est une recherche de résolution globale des problèmes en cherchant, dans tous les domaines, à trouver un moyen de faire se rencontrer les gens, de leur fournir un cadre où, s'ils le veulent, s'ils le peuvent, ils seront plus heureux.
C'est assez atypique, hein, ce genre de pouvoir.
c'est sûr. Faut vraiment replacer ça dans le contexte de 70, quoi, que les gens avaient vraiment des porteurs. Et en fait, quand tu rentres dans un appartement, tu as une entrée et tu as les deux escaliers, un escalier qui monte avec tout l'espace.
Parce que les appartements sont construits sur deux niveaux.
Donc tu as quand même cette espèce de sas à chaque entrée qui fait que tu n'es pas directement chez quelqu'un, tu es aussi dans une espèce de.
Ça, ça rappelle un coup, c'est où c'est.
C'est comme
une idée, parce qu'on a aussi. Même chez le Corbusier, ça fait penser aux appartements qu'il y a dans
la salle. Oui, chez le Corbusier, l'unité d'habitation de Corbusier, c'est comme ça.
Je pense que c'est en deux, les deux. D'autres, je pense que le Corbusier, ici, quand même.
D'ailleurs, je lui ai demandé.
C'est l'appellation du sol.
Je lui ai demandé à Jean-François Barrand quelle était leur figure tutélaire, mais il n'a pas voulu dire le Corbusier, quand même.
Cécile Paris, bonjour. J'ai un projet donc pour un ensemble urbain caractéristique des années 70, construit à Grenoble, qui s'appelle la Villeneuve. Tu connais peut-être ou...
Oui.
Et je voudrais t'associer à ce projet, parce que je pense que c'est un projet qui nécessitera toute une partie vidéo, en ce sens que je vais monter là-bas ce que j'appelle un environnement chorégraphique, c'est-à-dire une création chorégraphique à l'échelle du quartier. En deux mots, si tu veux, il se trouve que ce quartier, dans tous les domaines, a été un quartier innovant, c'est-à-dire que ce soit le domaine de la culture, de l'éducation, de la santé, de l'habitat, c'était un laboratoire d'expérimentation, comme ça a pu s'imaginer dans ces années-là. C'est vraiment un quartier complètement... caractéristiques de 68, quoi, pour aller vite. Là, il se trouve qu'il y a eu une conjonction avec une municipalité complètement ouverte à ce genre d'idées et qui a permis l'édification d'un quartier qui incarnait les idées qui circulaient à cette époque-là, les idées novatrices.
Ah, alors c'était très déroutant, hein. Au début, c'était très difficile parce que l'architecture est tellement compliquée, on ne savait pas où aller pour retrouver où on a son immeuble. Et...
Louise Rollet, habitante.
Mais il y avait vraiment une ambiance que je n'ai jamais connue ailleurs. Hein. Cette communauté, les écoles ouvertes, tout, tout, tout. On pouvait tout faire ici, on pouvait faire de la télé, on pouvait faire tous les ateliers qu'on voulait. Apprendre des langues, faire du tissage, de la poterie, tout ce qu'on veut.
Bon, là, c'est une école. C'est l'heure de la sortie. On peut passer à travers l'école. Donc, vous voyez, ça continue là-bas. Ça va jusqu'à la maison de la culture. L'idée au départ, c'est que les écoles n'avaient pas de cours. Les cours, c'était le parc. Et ça a très bien marché, sauf les maternelles. Les maternelles ont toujours été entourées d'un petit grillage. Oui, c'est normal, hein, les maternelles. Bon. Mais les primaires, c'était le parc.
Alors je voulais vous montrer aussi tout l'espace, quoi, jusqu'à l'endroit jusqu'auquel les enfants investissaient la cour de récréation, donc au-delà de cette piste.
Je m'appelle Emmanuelle Buffin. J'étais institutrice pendant 27 ans dans les écoles de la Villeneuve. Il y avait déjà la conception de l'école à air ouverte. La plupart des enfants, on peut dire qu'ils vont à l'école en ascenseur.
L'espace public, l'espace de parc, voilà, est le même et commun, voilà, à, voilà, aux immeubles, voilà, et aux cours d'école.
Ouais, ouais, ouais.
Le jeudi où Emmanuelle est revenue de son stage à Paris, elle a retrouvé la caisse du goûter vide. On n'espère pas retrouver le voleur ni l'argent, mais si on le retrouvait, on lui dirait que c'est moche de voler. Et comme il doit nous entendre, eh bien on lui dit c'est vraiment moche d'avoir volé l'argent de la caisse du goûter.
Il y a eu très longtemps une radio partir des années, ouais, 80, début des années 80, je pense, peut-être même avant. C'est-à-dire que tout ce qui pouvait concerner l'ensemble de l'école était diffusé à la radio.
Donc moi je suis Jean Rollet, j'ai participé au démarrage de la maison médicale, ce qu'on appelait la maison médicale à l'époque, qui maintenant est devenue centre de santé. Je suis pédiatre.
170 Galerie de l'Arlequin.
On est venu un peu par effraction ici, à Grenoble, dans le corps médical grenoblois. Le projet Villeneuve, en fait, c'était, on peut le résumer en disant changer la vie en changeant la ville. Et ceux du départ, si vous voulez, ils se sont cooptés, ils venaient de toute la France, en fait. C'est des gens un peu comme moi qui cherchaient à mettre en œuvre leurs idées, leur idéologie. Hein. C'est quand même très idéologue. Ouais. Ouais. Et puis, on s'est retrouvés là. C'était vraiment passionnant. Et les gens venaient de partout. Il y avait au moins, il y avait à peu près 50% de cadres et de classe moyenne et 50% d'ouvriers et d'employés. Il y avait 70% de logements HLM. C'est toujours le cas. Mais la population a beaucoup changé. Parce qu'y compris dans les HLM, c'était très mélangé. Il y avait une véritable mixité. Mmh.
Un élu de l'équipe Dubedou cite un article de 1972 sur la Villeneuve intitulé « L'anti-sarcelle ».
Je résiste pas, ouais, au plaisir de la formule de Guy Sidbon, à nous les Arabes, à nous les vieillards, à nous les fous.
C'était le moment de la lutte pour la contraception, l'avortement. Il y avait la lutte dans les usines, c'était quand même l'époque libérale giscardienne qui n'était pas facile. Et donc nous, on voulait changer tout ça, quoi. on voulait révolutionner la société. Il nous paraissait très important de vivre ici, c'est-à-dire de vivre dans le quartier. Et c'était presque une condition pour travailler au centre de santé, il fallait habiter dans le quartier. Un des grands principes de départ aussi, c'était la médecine lente, c'est-à-dire on ne voulait pas faire moins qu'une demi-heure par patient. Vous voyez ? Donc, accès aux soins faciles, pluridisciplinarité, travailler en équipe. Et on était très, très sensible à tout ce qui était justement répercussions de l'environnement, de la santé au travail, tout ce qui influait sur l'état de santé des gens, autre que la maladie. On ne peut pas clore le discours en soignant les gens de leur maladie. Non, Bersa et collègues, c'était la discussion permanente, c'était le forum permanent. Faut pas que ma femme écoute parce qu'elle garde un très mauvais souvenir de cette époque-là.
Il était un peu occupé.
C'était la
semaine.
Les réunions tous les soirs.
J'étais un peu fine.
On a refait le monde, quoi. On a quand même refait le monde. Et c'était même des fois assez conflictuel parce qu'on n'était pas tous du même bord. Ça allait des gauchistes jusqu'aux sociodémocrates. Et puis, on n'a jamais eu vraiment de gens de droite dans l'équipe. It's very far away. It takes about a half a day to get there. If we travel by my dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name.
À l'espace 600, le théâtre de la Villeneuve.
Moi, je suis venue parce que j'avais lu un article dans Le Monde.
Et moi, j'ai vu une émission là.
J'habitais Paris.
Et moi, j'habitais Rouen et j'ai vu une émission de télévision montrant un quartier qui se mettait sur pied. Et donc, je travaillais dans le socioculturel avec quelqu'un qui m'a dit « Ce soir, tu dois venir voir, viens voir ce film, c'est sur Villeneuve. » J'ai pris mon sac à dos, ma voiture, je suis partie.
J'ai fait à peu près pareil.
Geneviève Lefort, directrice de l'espace 600 pendant 10 ans. Marie-Philou Vibeau, animatrice socioculturelle. Et Sylviane Théillard, bibliothécaire.
Voilà. C'était fort, ça veut dire que vous...
Ah oui, c'était fort. Mais le projet était énorme.
Non, mais ça veut dire que vous orientez... Vous aviez quel âge, quoi, à cette époque?
Moi, pas 30.
Donc vous décidiez d'orienter votre vie en fonction de ce...
Mais il y avait une attente.
Ça nous a parlé pourquoi? Parce qu'il y avait une attente.
À... Bah, bien c'était sûr. Mai 68, enfin.
Pour... Bah, voilà, exactement.
C'était mai 68, on était complètement là. Nos utopies, on allait pouvoir les vivre. Moi, c'est un truc que je dis tout le temps, mais je les ai vécues, mes utopies. C'est-à-dire que pendant une bonne dizaine d'années, 10 à 15 ans, on a complètement vécu et construit ce qu'on avait rêvé. C'est quand même extraordinaire.
Ça répondait, quoi. Ça répondait.
C'est extraordinaire.
Ça répondait à quelque chose qui était en attente pour nous. Voilà. Les commissions pour préparer, ce n'était pas simplement des commissions d'architectes. Ouais. Dans ces commissions, ouais. Il y avait des gens dans le social, il y avait des gens dans l'urbanisme, il y avait des gens dans l'éducation, il y avait des gens dans le sport. Il y avait... Tous ces gens ont fait partie des commissions de mise en place de ce projet. Pas simplement l'urbanisme. Ça fait boule de neige, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait avoir des impulsions personnelles, mais on rencontrait quelqu'un d'autre qui en avait aussi. Et c'était ça qui faisait l'émulation complète.
Pour quelqu'un pour...
Pour dire, j'y crois comme toi. Donc j'y crois comme toi. C'était ça qui était énorme.
Vous dites tous.
Ah oui, mais c'est vrai.
Vous dites tous l'importance du travail en commun.
Ah ouais.
Et du temps, et du temps passé en commun.
Mais il y a plein de choses qui n'auraient jamais pu se faire.
La mutualisation, on ne disait pas ce mot-là.
Non, mais
maintenant,
on le
dit beaucoup,
je ne sais
pas quoi, mais mutualiser, mais voilà. C'était évident. Quoi.
En fait, si on en tire un petit peu comme ça, une réflexion un peu, qui on tire les fils sur ce qu'on est en train de dire, on retrouve toute la philosophie de la Villeneuve. C'est-à-dire, je reviens encore quand même sur ce vivre ensemble, différent à travers nos âges, à travers nos milieux sociaux, et que c'était possible, c'est ça le pari. Toutes ces grandes coursives qui s'ouvraient, on était sûr de tomber sur un voisin, ces ascenseurs qui tombaient la plupart du temps en panne, on était aussi sûr de rester un certain temps ensemble.
C'était le bus,
bon,
là.
Bon, voilà, c'est-à-dire que tout était fait pour qu'à un moment donné, on puisse se rencontrer, que ce soit sur la place du marché.
Et
l'espace 600, parce que qu'est-ce que c'était que l'espace 600? C'était le lieu forum, c'était la place publique, c'était le lieu de la parole, du débat politique, aussi bien que du débat civique, aussi bien que du débat artistique et du débat culturel. Ouais. Pour moi, mon plus beau souvenir, c'est quand Badinter est venu. Quand Badinter est venu ici et qu'il a annoncé que si la gauche était au pouvoir, la peine de mort serait abolie. Eh bien là, ça a été ovationné, mais j'étais dans la rue, j'étais sous la galerie, parce qu'on ne pouvait pas entrer dans l'espace 600. Mais on l'entendait et on a ovationné, voilà. Et c'est pour ça qu'on est là, parce qu'on a construit ensemble, et que je crois qu'on continue à parier qu'il y a des choses qui sont possibles, même si elles paraissent impossibles.
Voilà, exactement.
Je réalise ça vraiment au bout de ces deux jours-là d'interview. Finalement, c'est moins des formes ou des types d'actions à mettre en œuvre, c'est plutôt rechercher les processus et s'inscrire dans ce même type de processus, et non pas refaire la même chose.
Ah, voilà, exactement.
Du coup, ça demande vraiment une réflexion, et c'est pour ça que j'avais envie que vous me racontiez les choses, parce que j'avais envie de sentir comment vous mettiez en œuvre, comment ça devenait opérant, comment ces idées devenaient opérantes.
Je suis née de la dernière pluie et je me fous des on-dit, car je chante à l'envi mes vies de chat et ma vie de loup hurlant, ma vie de chien errant.
Steven Mélémis, architecte du collectif Bazar Urbain, nous donne son point de vue sur la Villeneuve.
Qu'il pleuve sur moi si je chante.
Je suis touché par cet enthousiasme qu'on ressent encore aujourd'hui, l'enthousiasme qui a été ceux des concepteurs du projet à l'époque. On le sent encore, une sorte de volonté à prendre les problèmes à bras le corps, à les reposer, à faire les choses autrement et à produire une idée autre de ce que peut être la qualité d'un espace urbain. Et donc je suis touché par ça parce que je trouve qu'il ne semble pas très facile aujourd'hui de sentir cet enthousiasme et de se permettre la liberté que ces architectes se sont permis. Alors que le souci de durabilité qui devient d'écologie, urbaine, qui est très important aujourd'hui, et demande ça de nous. Nous serons en quelque sorte condamnés à être créatifs, à aller d'avant. Mais quelque part, je sens que nous n'avons pas peut-être l'espèce d'aplomb qu'on ressent dans ce projet.
Donc,
c'est quelque chose qui relève davantage de détermination, mais ça relève de la joie quelque part, du sens que les choses sont possibles.
C'est absurde, là, quand même.
qu'on en dise, et sous la douche aussi. Je chante mes mélodies de la dernière pluie. De la dernière pluie qu'il pleuve sur moi.
Voilà la galerie avec les couleurs à peu près d'origine, des couleurs à la Siriani.
Jean-François Parent.
Alors, tous ces trous, c'est pas des trous de hasard. C'était des trous destinés à accueillir des...
Les trous dans les piliers,
les
là,
trous
de béton.
Dans les piliers, oui. Mm. C'était des trous destinés à accueillir les supports de boutiques, ou de tout un tas de choses qui venaient, je vais vous faire voir d'ailleurs.
Ça vous ennuie de décrire comment se présente la galerie, comment elle est...
Alors la galerie, c'est un espace qui a toute la largeur du bâtiment, c'est-à-dire 15 mètres, qui a 6 mètres de haut en général, quelquefois un peu plus, mais en général 6 mètres. C'est pas une rue comme une rue habituelle, avec un espace complètement vide et des immeubles de chaque côté. L'immeuble est au-dessus, donc il repose sur des piliers. Et l'idée de les colorer, l'idée de mettre des traverses pour pouvoir accueillir des équipements qui viennent et puis qui s'en vont. Parce que bon, on a prévu quand même que les choses pouvaient évoluer.
Un spectacle chorégraphique, par exemple, qui viendrait et puis qui s'en irait.
Par exemple, voilà, ici, vous jouez sur un fond vert. Et on dit non, on aurait préféré que vous jouiez sur le bleu. Ça, par exemple, c'est une cette espèce de guérite.
Ouais.
Et ces deux guérites-là, ça, c'est du Siriani tout pur.
D'accord.
Vous vouliez voir un cas.
C'est ça, oui.
Voilà. Alors, bon, ça a été discuté avec les élus. À quoi ça sert, votre truc? Ça sert à rien, etc. Donc, ça coûte cher pour rien. Mais Siriani a tenu bon, et l'équipe aussi, en disant ça marque la fin d'un quartier, l'entrée du centre, c'est les portes. Et la notion de porte, c'est important. On peut discuter sur la forme.
Voilà, c'est ce qui donne aussi une identité, quand il
voilà,
y a des éléments.
Voilà. Et ça, c'était vraiment typique de l'apport de Siriani. Mettre des signaux, des repères, soit avec la couleur, soit avec des constructions.
Je ne sais pas encore. Trouve-toi une place déjà confortable et où tu es à l'abri de la chute. Le temps qu'on trouve le cadre. Ça sera ta petite maison, Élie.
Ah, ouais.
Oh là là. Tu veux qu'on t'assure un peu en dessous?
Non, c'est des brouilles.
Comme tu as le mou. C'est des brouilles. J'aimerais t'y voir en talon compensé. Ça va?
Oui, oui, oui.
Je suis un peu trouillée. Premiers essais d'inscription du corps dans l'architecture.
Admirable.
Donc là, tu es...
En plus, comme tu ne pourras plus descendre...
Est-ce que tu sens l'esprit de Siriani sur toi, là?
Alors, attends. Alors Julie, qu'est-ce que là-dedans, les éléments importants pour toi?